Voilà, on est aujourd'hui le dimanche 30 octobre, on est le 2 Mar Cheshvan et on reprend notre cours du début de semaine. Dimanche et lundi, les cours sont consacrés à un Mahamar, bien que le Mahamar, on ne l'a pas encore vraiment commencé. Et c'est un petit peu difficile de se rappeler, bien sûr, ce qu'on a fait la semaine dernière, d'autant plus qu'il y a eu tellement de cours et les cours ne sont pas tous sur le même sujet. Je sais, j'avoue que c'est un petit peu difficile d'une semaine à une autre de revenir sur ce qui a été interrompu pour d'autres cours. Mais de toute façon, c'est comme ça, il faut s'y habituer. Ça fait déjà depuis de nombreuses années qu'on s'habitue à travailler de cette manière-là. Et comme les cours sont de toute façon sur le site, ceux qui veulent revoir peuvent revoir. Quoi qu'il en soit, on a commencé un Mahamar qui s'appelle Ve'amdou. On le verra quand on va vraiment rentrer dans le Mahamar, on va donner la référence et tout. Pour l'instant, on n'y est pas encore vraiment. Mais un Mahamar qui s'appelle Ve'amdou Raglav al-Har HaZetim, que ses pieds se poseront sur le Har HaZetim. Mais avant de rentrer dans le Mahamar lui-même, il était tout à fait normal, c'est un problème de bon sens, d'intelligence et d'honnêteté, de remonter jusqu'à la source du Mahamar dans la Torah elle-même, puisque un Mahamar du Rabbi, bien que ce sont des explications de chassidut de très très haut et de très profond niveau, ces explications s'enracinent d'abord sur un texte, soit dans la Torah de Moshe, soit dans la Bible, soit dans les prophètes. Et donc c'est ce qu'on a commencé à faire. Et aujourd'hui encore, on ne va pas encore rentrer dans le Mahamar, on va rester pour l'instant dans la source qui est le prophète Zacharie, et en passant aussi par d'autres prophètes, comme entre autres le prophète Ésaïe et le prophète Ézéchiel. J'espère qu'aujourd'hui on arrivera à faire le tour de tout ce qu'on a expliqué, de tout ce qu'on doit expliquer, pardon, pour rentrer véritablement dans le texte lui-même. Je tiens juste donc à rafraîchir un petit peu la mémoire, et on avait donc vu que dans la Torah de Moshe, le Balatourim, Rashi, peu importe, les Psukim, on avait commencé à faire un lien entre le fait que ses pieds, c'est bien sûr une métaphore bien évidemment, ses pieds vont se poser sur le Har HaZetim, vont se poser sur le Mont des Oliviers, avec le birour, avec le, on pourrait dire le tikkun, la fin de notre problème avec Esav. Donc, d'une certaine manière, la fin de notre exil actuel, qui a déjà commencé à se terminer, bien évidemment, puisque nous sommes à Jérusalem pour en parler. Mais en tous les cas, il n'est pas encore complètement terminé, cet exil. Et donc, on n'avait pas véritablement compris, mais les cours de la semaine dernière avaient été consacrés essentiellement à mettre en évidence le lien qu'il y avait entre cette fameuse prophétie de Zacharie que l'on lit à Soukhot, ces fameux pieds qui se posent sur le mont des Oliviers et qui fissure, comme on va le rappeler, qui fissure la montagne, et le fait que ça met fin au dernier exil d'Israël. Mais en vérité, ça met fin au dernier exil d'Israël d'une manière un petit peu particulière, puisque ce passage de l'ouverture de la fissure de la montagne, ce passage se place, ou plutôt se déroule en pleine guerre de Gog et Magog, comme on le sait, comme on l'a rappelé, comme on va le rappeler. La guerre de Gog et Magog, on le reverra encore une fois dans le commentaire du Malbim sur des versets dans Ézéchiel. Selon la tradition des maîtres d'Israël, telle que c'est rapporté essentiellement par le Malbim, la guerre de Gog et Magog, donc c'est ce dernier combat des nations qui s'unissent après que Israël soit revenu sur sa terre. À partir du moment où les nations commencent à véritablement sentir que ça y est, la délivrance finale d'Israël est en train de se produire, les nations essayent, on pourrait dire comme dans un dernier sursaut, de se rassembler pour mettre fin à ce qui a commencé. Et d'après notre tradition, et surtout encore une fois expliqué par le Malbim, cette concentration, ce rassemblement des nations, c'est essentiellement Esav et Ishmael, très globalement, le monde occidental, le monde chrétien, et l'islam, qui se réunissent pour attaquer Israël, pour reprendre Jérusalem. Et c'est dans ce contexte-là qu'on nous dit que ses pieds se poseront sur le Har HaZetim, que la montagne va donc, comme on l'a expliqué la semaine dernière, le mont des Oliviers va donc se fissurer d'est en ouest, et deux morceaux de montagne, je pense que c'est pas forcément une métaphore, cette chose, on peut, avec tous les tremblements de terre, auquel on assiste ces dernières années, on peut imaginer qu'effectivement, en tous les cas, les maîtres disent que là, il ne s'agit pas d'une métaphore. Il y aura, semble-t-il, effectivement un tremblement de terre dans cette région-là. Tout ce qui est Jérusalem-Est, c'est vrai que c'est très arrangeant que ce soit Jérusalem-Est qui prenne un tremblement de terre. Et donc, la montagne va se fissurer. Une partie va monter vers le nord et une partie va descendre vers le sud. Il va y avoir un immense plateau qui va donc apparaître entre ces deux morceaux de montagne qui se seront fissurés. Et on avait vu la semaine dernière que c'est à cet endroit-là que sera construit, ou plutôt que va s'étendre, le véritable Jérusalem, Jérusalem de la délivrance. Je ne vais pas répéter tout le cours, mais ceux qui veulent voir, qui n'ont qu'à voir le cours de dimanche et de lundi dernier. En tous les cas, ce qui veut dire que finalement le paradoxe du paradoxe est que la partie la plus revendiquée aujourd'hui, qui est Jérusalem-Est, celle qui est d'une certaine manière le prétexte, pas la cause, parce que des causes ils n'en ont pas besoin, mais celle qui est le prétexte à tous les conflits sur Jérusalem aujourd'hui, d'après notre tradition qui remonte à des siècles déjà, on a déjà prévu que de toute façon le vrai Jérusalem, le Jérusalem de la délivrance, est surtout sur toute la partie est de ce qui est Jérusalem aujourd'hui, grâce à cette fissure de montagne. Donc c'est ce qu'on avait expliqué, et on va reprendre ces notions-là. Il y a énormément, énormément de choses à voir aujourd'hui. Donc ne me bombardez pas trop de questions, parce que sinon on n'arrivera pas à relever le pari de faire en une heure et demie un cours qui normalement devrait être faire en plusieurs centaines d'heures. Donc on y va. Je reprends juste la phrase importante. Ve amdu raglav bayoma ou al arazetim, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Ça, bien sûr, c'est une métaphore. Asher al pene Yerushalayim mikedem, qui est donc à l'est de Jérusalem. Ve nifka arazetim, le mont des Oliviers va se fendre. Mechetsio mizracha veyama, de l'est vers l'ouest, pour permettre aux deux morceaux d'aller au nord et au sud. Vege gdola meod, et apparaîtra une immense vallée, ou mashchatziar tzvona vechatzio negva, une partie ira vers le nord, une partie vers le sud. Venastem gehar, ki yagiar harim el etzel, venastem kasher nastem, etc. Et comme on avait vu, et c'est là que vous vous installerez, d'après l'explication du Malvim. Voilà où on est arrivé maintenant. Regardez les versets qui vont suivre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour que vous puissiez comprendre? On va d'abord lire les versets, les traduire et les interpréter à un premier, un petit peu profond niveau, et après on va décoder plus profondément encore pour rentrer véritablement, on pourrait dire, dans l'âme du texte, c'est-à-dire de comprendre ce que ça signifie aujourd'hui. Parce qu'à partir de quand sait-on qu'on atteint l'âme d'un texte biblique? À partir du moment où on est capable de l'actualiser dans les moindres détails de notre vie présente. Puisque l'âme de la Torah, c'est son éternité. Donc, tant qu'un texte reste de l'histoire ancienne, c'est la preuve que tu n'as encore rien compris. À partir du moment où tu es capable de dire « voilà de quoi parle le texte aujourd'hui », c'est la preuve que tu lui as redonné son éternité, puisque tu l'as ramené au présent alors qu'il a été écrit à 3500 ans. Et donc, c'est ce qu'on essaiera de faire, Bezrat Hashem, vers la fin du cours. Regardez maintenant ce que disent les versets. Ve'aya bayom ha'u, et ce jour-là, le jour où cette montagne sera fissurée, lo ye'or yikarot kifa'on, ve'kifa'on. Je traduis tout de suite après tous les commentaires et surtout du Malbim. À ce moment-là, la lumière telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire la lumière forte et la lumière moins forte, pratiquement tamisée, qui fait allusion, comme on va le voir dans la suite des versets, à la lumière du soleil et la lumière de la lune, ce genre de lumière disparaîtra. C'est-à-dire que le monde ne sera plus régi, ne sera plus dirigé par la lumière du soleil le jour, qui s'appelle Yikrot, la lumière précieuse, ou la lumière de la lune la nuit, qui s'appelle Kippa'on, qui s'appelle la lumière tamisée, la lumière affaiblie. Vehaya yom echad, car le jour retrouvera son unité. À dire que le monde ne sera plus régi par cette succession de grandes et de petites lumières, ou voire même de lumière et d'obscurité comme on va le voir. Il y aura une lumière unique, une source unique qui inspirera et dirigera le monde. Ve'aya yom echad, hu yivadal Hashem. Il n'y a que Hashem, il n'y a que Havayé qui aujourd'hui, à l'époque où le prophète parle, peut comprendre ce que sera ce type de lumière qui dirigera le monde sans passer par ses hauts et ses bas, par ses obscurités et ses lumières qui font que finalement l'histoire humaine n'est pas dans une constante, mais varie constamment de shalom à guerre, de bien à malheur, etc. Puisque comme on l'imagine, bien sûr, au niveau du premier décodage de la métaphore, le jour et la nuit font allusion, bien sûr, au bonheur et au malheur. Lo yom ve'laila, maintenant ça devient plus clair, il n'y aura plus le jour et la nuit. Ve'aya le'et erev ye'or. Et si tu me poses la question, dit le prophète, et quand mériterons-nous de voir ce nouveau type de lumière diriger le monde? Alors il répond, Ve'aya le'et erev, au moment où tout s'obscurcira, au moment où le monde pensera, et surtout notre monde, Israël, pensera et disparaître, atteindre l'obscurité, c'est à ce moment-là, Ve'aya or, que l'obscurité se transformera en lumière, puisque justement, le but de ce remplacement des astres d'aujourd'hui par la lumière de la délivrance, c'est de montrer que finalement qu'on va sortir du cycle infernal du jour et de la nuit, du bien et du mal, du bonheur et du malheur, de l'exil, de la construction et à nouveau de la destruction. C'est justement pour bien mettre fin à ce cycle infernal de ce que le Malbim va appeler la lumière naturelle, pour laisser sa place à la lumière surnaturelle. C'est au moment justement où, d'après les règles et les lois de la lumière naturelle, on se trouvera en pleine obscurité, que l'ira tout d'un coup cette transformation, va y or, une lumière surnaturelle apparaîtra, et ça sera ça marquera la fin du cycle de la lumière naturelle qui est constamment jour, nuit, nuit, jour, nuit, nuit, jour. Vehaya, et à ce moment-là, Bayomahu, toujours ce jour-là, Yetsu Mayim Chayim Me Yerushalayim, Jérusalem retrouvera sa véritable dimension, telle que les prophètes, chacun dans son style, en a parlé. Certains ont dit, Kimitzion Tetse Torah, Udvar Hashem Me Yerushalayim, ça c'est le prophète Esaïe, mais dans le langage du prophète Zacharie, quand il parle de Jérusalem qui redeviendra la source véritable d'inspiration pour le monde entier. Lui parle de Mayim Chayim, d'eau vivante qui sortiront de Jérusalem. Chetziam Elayam Akadmoni, et ces eaux-là qui jaillissent, qui sortiront de Jérusalem, se diviseront en deux. Une partie ira vers l'est, Vechetziam Elayam Aharon, et l'autre partie ira vers l'ouest. Yom Aharon fait allusion à l'ouest. Bakaitz ou Bachorefiye. Et cette source ne tarira pas ni en été ni en hiver. Le Malbim fait remarquer, bien qu'on va voir dans le texte, que c'est toujours la même notion qui revient. Le cycle jour, nuit, erev, boker, été, hiver, qui fait qu'il y a tous les changements au niveau de la lumière ou au niveau de l'eau. C'est évident que l'eau en été ne se déverse pas comme en hiver. En hiver, il y a la fonte des neiges, il y a les pluies, il y a beaucoup plus d'eau. En été, surtout en Israël, les rivières sont asséchées. Ce qui veut dire que où la lumière ou l'eau subissent les fluctuations, les transformations liées à la nature, ce que le prophète veut nous faire comprendre, et ce sont pas seulement des métaphores, mais ce sont des choses qui peut-être même dans la réalité seront vécues, c'est que la nature ne nous fera plus subir ces transformations. On va vivre à un niveau qui est justement au-delà de la nature, où il n'y aura plus de différence entre le soir et le jour, entre la lune et le soleil, et entre l'été et l'hiver en ce qui concerne l'eau. Et bien sûr, ce fameux verset, j'arrête le texte, qui est le verset avec lequel on conclut toutes les prières d'Israël depuis des millénaires. Ve'aya Hashem le meler al kol haaretz bayom ye Hashem echad ushmo echad. Ça valait quand même la peine de se rappeler que c'est ici, le 9e verset du 14e chapitre de Zacharie, que se trouve le grand et le fameux verset qui résume toutes nos prières, donc toute l'aspiration d'Israël, je le reprends. Ve'aya Hashem le melech al kol haaretz, avayé sera roi sur toute la terre, bayom ahou, et en ce temps, ye Hashem echad ushmo echad, il sera un, lui avayé sera un, et son nom sera un. La prophétie n'est pas terminée, mais après, ce n'est plus dans le cadre de notre cours. Donc en tous les cas, vous voyez que ce qui est mis en évidence constamment, c'est la notion d'unité. Regardez combien de fois on parle d'unité. Ve'aya yom echad, et ça sera un jour un. Ou bien sûr, ba'yom ahou yehashem echad ushmo echad, trois fois le mot un. Et même dans les versets où le mot « un », l'unité n'est pas véritablement évoquée, elle est suggérée par le fait que l'on dit « lo yom velo laila », il n'y aura plus jour ni nuit, ou bien que « bakaitz ou bachoref », il n'y aura plus de différence entre l'été et l'hiver, c'est-à-dire que le prophète prend justement les différences fondamentales, jour, nuit, été, hiver, pour nous faire comprendre que toutes ces choses-là vont disparaître, pour laisser la place alors finalement au monde de la délivrance, qui est le monde de l'un, le monde de l'unité, où tout s'inclut dans une unité parfaite. Alors regardez, dans un premier niveau maintenant, on ne va pas voir des choses très 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 nouvelles par rapport à ce que je viens de dire, puisque ce que j'ai dit est tiré de ce qu'on va lire, mais simplement pour l'asseoir un petit peu dans le texte, parce que les nuances au niveau du texte vont nous apporter quelque chose de très important. Regardez ce qu'il dit. Le Malbim, bien sûr, sur, par exemple, le verset qui dit « Bayom ha'ou loye or », il n'y aura plus la lumière brillante et la lumière ternie qui font allusion donc au soleil et à la lune. « Rotzelomar », c'est-à-dire « She'az yerdal or ha'shemesh ve'ayarear mele'air ba'olam ». À ce moment-là, à partir de la délivrance, les deux astres qui sont le soleil et la lune arrêteront de dominer le monde, parce que pour l'instant, et surtout dans l'époque pré-messianique, les deux astres qui dominent le monde avec ce qu'ils représentent, et vous le devinez déjà, sont la lune et le soleil. Ces deux astres-là perdront leur influence pour laisser place à quelque chose de fondamentalement nouveau. Loye, et c'est d'ailleurs ce que dit aussi le prophète Esaïe, dit-il, Loye lecha od ha-shemesh le'or yamam. On va les voir ensemble dans Esaïe, la merveille du passage là-bas. Mais Esaïe, tel que c'est rapporté ici, dit, sache que le soleil ne sera plus ta lumière le jour et la nuit ne sera plus ta clarté la nuit. La lune, pardon. Ve'aya lecha ha-shem le'or olam, parce que c'est Avayé qui sera ta lumière. Regardez ce qu'il dit. Dans notre réalité, ce n'est plus la lumière matérielle qui dirigera l'histoire humaine. Je continue. Ve'aya yom echad. Le jour sera un. Lo yé ayom chalouk le yom ve'laila. Il n'y aura plus cette séparation liée à la nature à l'intérieur d'un même jour de 24 heures entre 12 heures de nuit et 12 heures de jour. La boker ve tsoraim ve et erev, il n'y aura plus les successions que l'on appelle matin, après-midi et soir. Shezerak ve et sheishamshu ameorot agashmiim, parce que cela n'est possible que lorsque le temps est soumis à l'influence des astres matériels. Aval az, mais à ce moment-là, yeyom echad meduba kuloyom, le jour sera un jour complètement nouveau, puisqu'il sera collé à sa source. C'est-à-dire un jour que seulement Dieu connaît, parce que lui-même connaît sa propre source, chez Oro Miyuchas la Vaillée, parce que la lumière de l'histoire, la lumière du temps, se dévoilera dans ce monde telle qu'elle est au niveau de sa source qui est availlée. Lola Shemesh Veyarear, il reprend, ça sera plus le soleil et la lune, à Meorot qui sont aujourd'hui les astres de ce monde matériel. Et Ve'aya le et erev, encore une petite patience, ve'aya le et erev yehor, et c'est précisément que, on peut dire, l'histoire, ou plutôt la providence s'arrangera pour amener notre monde jusque, on pourrait dire, un état d'obscurité lié aux astres de la nature, d'obscurité totale, c'est-à-dire, le et erev suppose, mes amis, que finalement, nous serons à ce moment-là sous pratiquement la seule influence visible de la lune, puisque et erev, c'est la lune. C'est-à-dire que le texte fait allusion au fait que finalement, cette nuit, juste avant la délivrance finale, cette nuit dans laquelle Israël va se trouver, c'est une nuit liée donc forcément à la lune, c'est-à-dire que nous aurons à ce moment-là un problème énorme avec l'astre de la lune, et à ce moment-là, au moment où l'astre de la lune sera le seul dominant et le seul à exercer son influence sur Israël, qui se trouva dans une situation, je ne lis pas tout ce que le commentaire dit, qui se trouva dans une situation de détresse énorme, comme le disent les autres prophètes, « Vayhi et tsara le Yaakov, umimena yivashea » un moment d'étroitesse énorme pour Yaakov, et c'est de cette étroitesse qu'il sera délivré. Ce à quoi fait allusion le verset ici lorsqu'il dit « Et Erev », un moment où l'astre lunaire régnera dans toute sa puissance, « Yehor ». C'est à ce moment-là que jaillira la lumière, mais pas la lumière du soleil, parce que c'est pas pour repartir nouveau dans l'exil occidental. Mais à nouveau, un renouveau, qui va apparaître, c'est cette fameuse lumière qui est au-dessus des astres. Et regardez ce qu'il dit. Shemesh agashmit arev edishka. C'est au moment où le soleil physique commencera à disparaître. Au moment où l'Occident sera en déclin, et que quand le soleil physique est en déclin, qui monte? C'est bien sûr, c'est la lune, et l'astre lunaire, on sait tous, on va préciser à qui il fait allusion. Ve'az yatri la or haikari. À ce moment-là, tout ce passage de la fin de l'Occident et de la montée de l'islam, pour appeler les choses par leur nom, tout ce passage-là est le signe imminent de la délivrance d'Israël. Les haïr est or avayé, pour que se dévoile le or avayé. Et regardez maintenant ce qu'il dit. Et j'arrête. Vei melitza niflaha. Et sache que tous ces versets, il faut les prendre comme une métaphore. Bien sûr, ça fait allusion à ce à quoi correspondent ces astres-là. Et comme on le sait, on va juste le redire, mais on ne peut pas ne pas le dire déjà maintenant. C'est évident que le soleil fait allusion, bien évidemment, à l'Occident, au monde chrétien, et la lune fait bien sûr allusion à Ishmaël, à l'islam. Donc le Malbim nous dit, ne prends surtout pas ces versets à la lettre, il s'agit ici de comprendre le secret, le décodage de la métaphore. Et qu'est-ce que cela signifie? Shegit batel ha'era ve'ashefa yotzemet ameorot, que ces deux astres-là et ce qu'ils représentent cesseront d'agir dans ce monde et finalement de s'imposer à ce monde. Ve'ayevehashem be'atzmu birvodo, parce que c'est le etzem, c'est l'essence même du divin qui va se dévoiler. Ve'yanig ve'yimshol be'shefat midiv bilti mishtane. Et à ce moment-là, c'est pour cette raison que l'on parle d'unité, parce que lorsque l'essence du divin se dévoile, automatiquement, il n'y a plus ces changements entre le bien et le mal, entre le jour et la nuit, l'obscurité, la lumière, et l'été et l'hiver, liés justement à ces deux astres. Ici, il y a une notion extrêmement importante que je vais simplement, on pourrait dire, souligner, mais que je ne vais pas vraiment expliquer, car on s'en servira plus quand on va rentrer dans le Mahamar, c'est-à-dire selon la dimension plus profonde, plus chassidique de ces notions-là. Mais le Malbim fait allusion à quelque chose d'extraordinaire. Il dit que justement la différence fondamentale entre la Hanaga, entre la manière dont fonctionne le monde aujourd'hui, soumis aux astres, lune et soleil, Ishmaël et Esav, et le monde à venir, où il n'y a plus que la lumière d'Avayé, donc la lumière d'Israël, il dit la différence, elle est entre Ehara et Etsem. C'est les mots mêmes du Malbim. On sait tous, pour ceux qui ont un petit peu l'habitude du langage chassidique, que Ehara et Etzem, c'est-à-dire rayonnement et essence, font justement allusion à ce dont il fait, de ce qu'il explique, ou plutôt ce dont le prophète parle, puisque justement la succession entre une chose et son contraire n'est possible que dans le monde des rayonnements, mais pas dans le monde de l'essence. L'exemple qu'on a déjà rapporté des milliards de fois, au même moment, au-dessus de la Sibérie et de l'Afrique, il y a le même soleil avec la même intensité, la même force et la même boule, mais en Sibérie, il fait moins 50, et au même moment, en Afrique, il fait plus 50. Pourquoi? Parce que les terres ne reçoivent que les rayonnements, non l'essence. Et selon le positionnement et selon quantité d'autres facteurs qui font que là, les rayons arrivent pratiquement non filtrés par rapport à la Terre, bien sûr. Et là, ils arrivent complètement filtrés. C'est ce qui va faire la différence entre moins 50 et plus 50 au même moment, à la même minute, sur deux endroits différents de la Terre. Et donc, encore une fois, les changements ne sont possibles qu'au niveau du rayonnement, mais pas au niveau de l'essence. On a tous déjà pris, comme je l'ai déjà dit, expliqué, l'avion en s'envolant, soit d'ici en plein hiver, ou surtout d'un autre pays en plein hiver, où on a l'impression qu'on est écrasé sous les nuages, et dès que l'avion traverse les nuages, on est en présence d'un ciel bleu et d'un soleil éclatant, alors qu'en bas, c'est l'hiver, la pluie, la grisaille parisienne, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les rayons qui sont abîmés, mais jamais l'essence. Et donc, ce que le Malbim veut nous faire comprendre, c'est qu'à un niveau plus profond, au niveau du décodage de la métaphore, toutes les notions que nous vivons aujourd'hui, bien, mal, bonheur, malheur, exil, reconstruction, retour, puisque je ne parle pas bien sûr de la délivrance finale, les retours successifs tout au long de notre histoire de l'exil, retour de Babylonie, retour d'Égypte, etc., mais qui n'étaient pas des retours de délivrance définitive, toutes ces successions-là sont dues au fait que pour l'instant, le Dieu ne dévoile que des rayonnements de sa lumière. Mais lorsqu'il dévoilera son essence, tout ça va disparaître. Dit aussi d'une autre manière, avant de rentrer plus profondément dans le texte et dans notre histoire, les deux astres, la lune et le soleil, ne peuvent régner, donc diriger l'histoire, que tant que Dieu cache son essence. Et donc il y a une place pour les religions de rayonnement. L'une qui va s'identifier au soleil et l'autre qui va s'identifier à la lune. L'Occident chrétien ne fonctionne que d'après le soleil, comme on le sait. Ils n'ont qu'un seul calendrier qui est le calendrier solaire. Et l'islam d'Ishmaël n'a qu'un seul calendrier qui est le calendrier lunaire. Et donc, ces deux religions, avec toute la civilisation qu'elles entraînent, ne peuvent régner, ne peuvent diriger ce monde que tant que Dieu voile son essence. Mais le voilage, ou le voilement de l'essence de Dieu, signifie aussi l'exil d'Israël, comme on le verra explicitement dans Rashi. Où Rashi explique, on peut déjà le dire maintenant, que le verset « Bayom Ahouye Hashem Echad Ushmo Echad » Ce jour-là, Dieu sera un et son nom sera un, signifie, dit Rashi, que le peuple juif cessera de cacher le nom divin, mais aura le droit de lire, de prononcer le nom divin tel qu'il s'écrit. Car vous savez tous que le nom divin s'écrit Yudke Vavke, mais nous n'avons pas le droit de le prononcer tel qu'il s'écrit. Nous le prononçons Adon, qui veut dire le maître, alors qu'il est marqué Yudke Vavke, qui se prononce et qui signifie autre chose. La raison pour laquelle, dit Rashi sur ces versets-là, la raison pour laquelle nous ne prononçons pas le nom divin tel qu'il s'écrit, et la raison pour laquelle Zacharie dit qu'à ce moment-là, oui, nous prononcerons le nom divin puisque son nom sera un, signifie qu'il n'y aura plus de différence entre ce qu'on lit et ce que l'on prononce, Rashi explique parce qu'il y aura un dévoilement de l'essence. Pour l'instant, l'essence est voilée, donc pour montrer que le véritable ou la véritable dimension de Dieu est voilée, nous marquons une distance, une différence entre ce que nous prononçons et ce qui est écrit. Mais ce voilement de Dieu signifie aussi le voilement de tous ceux qui sont là pour dévoiler véritablement Dieu. Voilement de la grandeur de cette terre, voilement de la grandeur de ce peuple, voilement de la grandeur de la Torah. Tout est voilé parce que le nom divin est voilé. Pourquoi le nom divin est voilé? Pour laisser une place à l'histoire. Parce que pour l'instant, l'histoire est l'histoire des astres. Le soleil pour le monde occidental chrétien et la lune pour l'islam. Mais le jour où Hachem décidera, en pleine guerre de Gog et Magog, qui justement lie l'islam à Ishmaël à Esav, quand en pleine guerre, à ce moment-là, les pieds se poseront sur le Har HaZetim, on comprend que ce posage de pieds sur le Har HaZetim va entraîner un bouleversement total dans l'histoire, où finalement Dieu dira « je n'ai plus besoin des astres maintenant », donc automatiquement disparaîtront ces deux grandes religions et ces deux grandes civilisations, telles qu'elles sont en tous les cas aujourd'hui. Je n'ai pas dit que les nations, les hommes, les femmes, les enfants disparaîtront, qu'à Dieu ne plaise, j'ai dit que la religion et la civilisation disparaîtra. Et à ce moment-là, le monde entier, l'humanité tout entière rassemblée, comme le disent d'autres prophètes, servira le Dieu, un servira l'essence du divin qui s'appelle Havaïe, que tout le monde appellera à ce moment-là l'essence du divin, tout le monde l'appellera Havaïe. Alors maintenant, juste pour préciser que effectivement tout ça, ce n'est pas de la fabulation, et qu'on parle bien que je n'ai pas besoin de le prouver, puisque si on le dit, forcément, c'est que c'est vrai. Mais malgré tout, un petit rappel important pour bien nous expliquer, pour bien se rappeler qu'on est en plein ici, en plein contexte d'un conflit qui oppose Israël avec Esav et Ishmaël. D'ailleurs, dans Zacharie, juste le verset juste avant, il posera ses pieds. Bien sûr, parce que de toute façon, les versets le suggèrent, le Malbim rappelle qu'il s'agit bien de la guerre qui nous oppose, c'est mot à mot, à Ishmaël et Édom. Et il le dit plus clairement dans Ézéchiel, puisque vous savez que la fameuse guerre de Gog et Magog est éparpillée dans de nombreux endroits dans les prophéties. Et juste, il rappelle la chose suivante. C'est dans le 32e chapitre de Ézéchiel, à partir du verset 17, où il explique la chose suivante. « Ve'ine be'et ket » Sache qu'au moment de la délivrance finale, « Achar shekvar yashvu Israël aladmat Israël » Après que Israël soit revenu sur sa terre. Je vous rappelle juste que lui n'a pas connu cette époque-là. Hein. Donc toute ressemblance avec des événements n'est que fortuite. Mais c'est un maître d'Israël, donc forcément un prophète à son niveau, c'est un prophète. Achar shekvar yeshvu Israël aladmat Israël. Après que Israël soit déjà revenu sur sa terre, atidinu mot leitasef, les peuples se rassembleront, lirbosh et Yerushalayim pour nous reprendre Jérusalem. Vayavo Gog, Nasi, Mesher, Vetuval, et viendra Gog, etc. Voilà. Et donc, regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit ici, bon, je saute ce qui ne nous intéresse pas. Et il y aura aussi une autre partie, pas seulement Gog, qui vient... j'ai sauté l'essentiel. Viendra Gog, qui l'appelle She'em Arelim Anikraim Edom, qui sont les incirconcis appelés du nom de Edom. Tout le monde sait dans la tradition d'Israël qui sont les incirconcis appelés Edom. Vechen, mais viendra aussi... Bet Tugarma, les Turcs. Tugarma, c'est les Turcs, c'est dit dans différents endroits. Shehem Kulam Nimulim, qui eux sont circoncis. Marzikim Bedat Ishmaelim, ainsi que tous ceux qui croient en la religion d'Ishmaël. Vehem Yitasfuim Bine Edom, dans un premier temps, ils se mettront ensemble avec les incirconcis. Lirbosh Aaretz Miyad Israël, pour reprendre la terre de la main d'Israël. Aval, mais qu'est-ce qui va se passer? Bevoham yaase beinem meuma. Mais au moment où ils seront en train d'essayer de nous reprendre cette terre, vous imaginez qu'un circoncis peut s'entendre avec un incirconcis? C'est pas possible. Et donc automatiquement, il y a suffisamment de raisons de tension et de dissension et de haine et de guerre entre eux pour qu'en plein moment où ils se devraient s'unir pour nous faire disparaître, toutes les vieilles guerres de religion entre eux ressurgiront, et au lieu de s'occuper de nous, grâce à Dieu, ils s'occuperont d'eux-mêmes. Ve'ilchamu ishbe achiv, et finalement ils se feront la guerre les uns aux autres. Aïnou edom ve'ishmael yilachamu zebeze. Pour un homme qui a vécu il y a si longtemps et qui était si loin d'imaginer ce qui allait se passer, ce qu'on voit se passer tous les jours davantage, on peut comprendre la prophétie d'un texte pareil. En tous les cas, on est bien, encore une fois, dans ce conflit entre Esav et Ishmaël. Alors, ce qu'il faut comprendre maintenant, comme je l'ai suggéré, à partir du moment où il n'y a plus aucun doute qu'on parle de Esav et d'Ishmaël, et on comprend donc évidemment quelle est la symbolique, comme il le dit, « Melitza Nifla'a », une métaphore mystérieuse, le Malbim appelle ce texte-là, de la lune et du soleil. Mais pour nous, c'est plus si mystérieux que ça, parce qu'on a un minimum de clés pour comprendre que si on est en plein épisode qui met en face, en présence, Israël, Esav et Ishmaël, on comprend pourquoi Israël est représenté par le Shema Vayé, et pourquoi Esav et Ishmaël sont représentés l'un par le soleil et l'autre par la lune. Et toute cette métaphore donc de la disparition de la lune et du soleil, c'est la fin finalement de ces deux civilisations chrétiennes et ishmaéliques, au profit donc du dévoilement pour l'humanité tout entière du Shem Havayé. Et c'est ça le fameux « il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers ». Bien sûr, on n'a pas encore 100% compris quel est le lien entre le fait de poser les pieds sur le mont des Oliviers et toutes ces merveilles qui vont se produire. Mais quoi qu'il en soit, ça sera déjà plus la partie du Mahamar. Pour l'instant, je reste dans le texte. Et puisque le Malbim a rapporté Ésaïe, qui dit que Ésaïe dit plus ou moins la même chose que Ézéchiel, on va aller voir dans Ésaïe quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que Ésaïe lui aussi parle de ce moment où la lune et le soleil disparaîtront, mais il le dit avec énormément plus de précision qu'Ézéchiel. Je tiens juste à préciser que nos maîtres dans le Talmud se sont permis de dire que la différence entre Ézéchiel et Ésaïe, la différence entre un Ben Kfar, entre un villageois qui a reçu quelques jours de vacances et qui va dans la capitale pour voir le palais et le roi et qui s'émerveille de chaque chose parce que d'abord il sait qu'il n'a que quelques jours et puis c'est la première fois qu'il voit les merveilles d'un palais. Alors que Ésaïe est un prince qui est toute la journée dans le palais du roi. Ce qui veut dire que nos maîtres nous font comprendre, pour d'autres raisons que celles que j'explique maintenant, que la prophétie d'Ésaïe est une prophétie très 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 haute parce qu'elle correspond à la vision d'un homme qui côtoie le roi en permanence. Alors que Ézéchiel, lui, est le Ben Kfar, et qu'on appelle ça le villageois, qui a eu tout d'un coup une ouverture et qui en a profité pour raconter et écrire tout ce qu'il voyait. N'oublions pas que la différence est historiquement évidente entre eux. Toute la prophétie d'Ésaïe est en Eretz Israël, avant la destruction du temple, alors que toute la prophétie d'Ézéchiel est en Babylonie. Donc, simplement aussi, pour comprendre la différence qu'il y a entre un juif d'Eretz Israël et un juif de Chutz La'aretz, nos maîtres appellent un juif d'Eretz Israël le prince qui est dans le palais du roi, et celui qui est en Chutz La'aretz, même le plus grand d'entre eux, le prophète Ézéchiel, n'est que comme un villageois qui de temps en temps a le mérite d'avoir une ouverture, et il voit le roi, il en profite pour écrire tout ce qu'il a écrit. Je referme la parenthèse. Voyons maintenant ce que dit Ésaïe. Alors, Ésaïe, c'est très très fort, surtout que là, on a le bonheur de pouvoir, c'est pas dans tout le Nar qu'on a le bonheur d'avoir avec nous le Balatourim. Le Balatourim a commenté tout le Nar, mais n'a pas forcément commenté tous les passages. Et donc, quand il les a commentés, alors là, il faut vraiment s'arrêter. Surtout qu'on va revoir un commentaire extraordinaire qu'on a déjà vu. Et le Pélek, le Balatourim, ce commentaire qu'il avait dit dans la Torah de Moshe, le ramène ici sur une prophétie d'Ésaïe. Et vous allez vous rappeler c'est quoi ce fameux commentaire. Donc, on est dans Ésaïe, on est dans le chapitre 60 et le verset 18. Il nous dit la chose suivante. Lo yishama od Hamas be'artzer. Le Hamas disparaîtra de ta terre. C'est le même mot, c'est écrit avec les mêmes lettres, etc. Hamas veut dire, bien sûr, le violent. Mais ce qui est extraordinaire, nous savons, c'est la base de notre foi, sinon on a... Qu'est-ce qu'on a de juifs si on n'a pas compris ça? Que le monde est dirigé avec des messages et des signes inimaginables de génération en génération pour bien nous ramener constamment à la source qui est la Torah. Et donc, constamment, dans chaque génération, Dieu distribue des messages, des noms, où il appelle les choses de différents noms pour que celui qui a un minimum de clés sache à quoi ça fait allusion. Donc ici, la promesse qui est faite, mais vous allez voir, le Balatourim ne va pas se contenter de ce que je dis. Lo yishama od Hamas be'artzer. Le Hamas disparaîtra de ta terre, puisque c'est un voleur qui s'est installé sur le territoire de Yehuda. Comme on le sait, toute la bande méditerranéenne appartient à la tribu de Yehuda.
À partir de quel moment, ça?
Et on va, le moment où de la délivrance, où le soleil va disparaître, etc. Ce qui est intéressant, c'est que pour qu'on n'ait aucun doute que le Hamas en question, on est dans une prophétie, on n'est pas dans un livre d'histoire, que le Hamas en question fait aussi allusion au nôtre, le Targum Yehonatan, sur lequel nos maîtres disent dans le Talmud qu'il a retrouvé que tout son perouche est Beroa Kodesh, c'est une véritable prophétie. Ce qui est intéressant, c'est que comment lui traduit le mot Hamas, lo yishtama od hitpa, il n'y aura plus de kidnappeurs. Toute ressemblance avec ce n'est que fortuite. Je vous assure que je ne l'ai pas fait exprès. Un Khotef, c'est un kidnappeur. Donc, le Hamas, le kidnappeur, va disparaître. Mais ce n'est pas fini. J'ai simplement oublié de vous passer un SMS avant de venir à ce cours, de bien manger avant ce cours. Parce que ceux qui ont le ventre vide vont sentir leur boyau se tourner tellement ça va être fort avec l'aide du maître du monde. Ses lettres, ce qu'il envoie avant le cours, et son aide. Et donc, loishtama od hitpa, il n'y aura plus de kidnappeurs sur votre terre. Be'arer sur ta terre. On continue. Je reviens maintenant au verset. Shod vashever, il n'y aura plus ni destruction, ni brisure. Parce que c'est sûr que des brisures, Shabbat, il y en a eu combien? Des maisons, des ci, des ça, et des destructions, un mort, etc. Donc, le kidnappeur, le Hamas disparaîtra de ta terre. Il y a pas de, on ne peut pas composer avec des gens pareils. C'est la disparition, la sienne ou la nôtre. Lui ne fait pas partie de ces 70 peuples qui ont une place au moment de la délivrance finale. Begvulaïr, ce Hamas qui est installé à ta frontière. Parce que ce Hamas, parce que la précision est folle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où est le Hamas kidnappeur? Sur ce qui est aujourd'hui notre frontière. Puisque aujourd'hui, de l'autre côté, c'est pas nous. C'est pas à nous, aujourd'hui. Et regardez, Vekarat Yeshua Chomotayir. Mais tes murailles redeviendront des murailles de délivrance. Toujours l'aspect très poétique des prophètes d'Israël. Ou She'arayir Te'ila. Et tes portes deviendront prière ou louange. Ça veut dire que va se passer quelque chose qui va faire que finalement, les grades ou les scuds ou les, je sais pas comment ils appellent, les patzmar, je sais pas comment on dit en français, que l'on reçoit à raison d'une trentaine par jour de cet endroit-là, tout ça disparaîtront. Et d'où on sait que Ésaïe parle de la même prophétie que Zacharie, c'est pour ça que le Malbim a dit, regarde les deux, Lo yelach od hashemesh leor yomam, et le soleil ne te servira plus de lumière le jour, ol noga yorear, et la lune aussi cessera de t'éclairer, lo yair lar, elle ne sera plus ta lumière, ve'ayalar hashem leor olam, c'est Hashem qui sera ta lumière éternelle, ve'elokayir letifarter, et elokayir sera letifarter, ton Dieu sera ta louange. Donc, Zacharie nous avait prévenu que les et rêves y est or, au moment où seulement l'astre de la lune dominera, c'est à ce moment-là que mènera cette lumière-là. Pourquoi l'astre de la lune? Parce que le Malbim a fait allusion au fait que Ishmaël commencera d'une certaine manière à dominer le monde au moment où l'astre solaire sera en déclin total, c'est la fin de l'Occident, et la montée pendant un certain temps de l'islam. Nos maîtres disent dans le Talmud que Atid Ishmaël itpachet bechol haolam kulo tish achodashim, que Ishmaël s'étendra sur le monde entier pendant 9 mois. Tout le monde comprend que c'est une métaphore. 9 mois, ça veut dire les 9 mois de la grossesse pour permettre à l'enfant de naître. L'enfant qui est bien sûr le Mashiach et la délivrance d'Israël, c'est que lui va servir finalement de péridual ou plutôt de contraction, parce qu'il va tellement contracter le monde que le monde n'aura pas d'autre choix pour s'en sortir que d'accoucher son Mashiach. En tous les cas, on parle ici de la même chose. Regardez ce que va dire le Balaturim sur le fameux Vekarat. Et il arrivera. Qu'est-ce que nous avait dit il n'y a pas si longtemps que ça, le Balaturim dans la Torah de Moshe, sur le mot Vekarat, ça fait allusion à qui? Et il arrivera. Qu'est-ce qu'il arrivera? Dans la Torah, sur qui il est dit il arrivera? Sur Ishmaël. Le Balaturim dit sur ce verset qui parle du Hamas, encore je reprends, Lo Ishama od Hamas Be'artzer. Avec la traduction du Yonatan Ben Uziel qui dit Hamas c'est Hotfar, c'est le kidnappeur. Et le verset continue, c'est le même, c'est pas un autre. Vekarat Yeshua, mais finalement tu auras la délivrance. Et le Balaturim va nous dire, tu auras la délivrance de qui? De celui auquel le mot karat fait allusion. Et il nous dit, bien sûr, Vekarat est très maraa. Ce verset est à mettre en analogie avec un autre verset qui dit « Karat, il arrivera sur vous le mal, ici il arrivera sur vous la délivrance, et là-bas il arrivera sur vous le mal. » Donc la délivrance de ce fameux mal, qui c'est ?« Vekarat Shemo Ishmael », je t'invite à dire que son nom c'est Ishmael. C'est incroyable. Lui il a vécu à une époque où, je ne sais pas s'il a rencontré une fois dans sa vie un Ishmaélite. D'accord, il a vécu en France et en Allemagne à l'époque du Moyen-Âge. Imaginez à cette époque-là que le temps de la délivrance, c'est nous sortir de l'emprise d'Ishmaël, fallait être un Balaturim pour ça. Mais en vérité, Zacharie l'avait déjà dit, puisque Zacharie a dit « Vaï'il et erev » c'est au moment du soir, donc de l'astre lunaire, que Yéhor, donc on va être délivré de l'astre lunaire. Simplement que dans Ésaïe, le Balaturim retrouve, par une analogie de mots, « Vekarat, Vekarat » on sera délivré de celui qui est le mal, qui est Ishmaël. Donc dans un verset qui parle du Hamas, c'est assez extraordinaire. Maintenant que vous avez compris sans le moindre doute, parce que c'est plus moi qui le dis, le Balaturim, que toute cette délivrance fait allusion à la délivrance d'Israël des mains d'Ishmaël, c'est là que les astres vont disparaître. On comprend pourquoi c'est le mont des Oliviers à l'est qui va s'ouvrir pour faire disparaître le Jérusalem-Est. Regardez maintenant ce qu'il dit. Lo yavo od shimsher veyareher. Tu n'auras plus besoin ni du soleil ni de la lune. Ki Hashem yelach leor olam. Parce que Hashem sera ta lumière éternelle. Veshalmu yeme evler. Et enfin, tu sortiras des jours de ton deuil. Le deuil, comme les commentaires expliquent, c'est bien sûr les 2000 ans du deuil d'Israël, qui sont le deuil sur Jérusalem, le deuil sur le temple, le deuil de l'exil, et aussi, à part ce deuil-là, le deuil, tout ce qu'on a rajouté dans l'histoire, jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça. Et qu'on rajoute malheureusement jour après jour aussi. Et après le verset dit, Ve'amer kulam tzadikim, là aussi un verset merveilleux, tellement connu. C'est intéressant de se rappeler où est la source. Le 21 et 21e verset du 60e chapitre de Ésaïe. Tout le monde connaît ce verset, mais on ne savait pas forcément qu'il était d'Ésaïe. Ve'amer kulam tzadikim, ton peuple sont tous des justes. Le olam yirshu aretz, et eux auront la terre pour l'éternité. Netzer mata'ay. Parce qu'ils sont l'œuvre de ma main, et c'est de eux que je puiserai, que je recevrai une louange pour l'éternité. Donc le verset nous promet que nous serons plantés, pas on va se faire planter, mais on sera plantés sur notre terre pour l'éternité. Et je pense que, c'est là que je vous ai dit, faites attention à ceux qui n'ont pas mangé ce matin, je pense que pour éviter tout doute, de plus ou moins de quelle époque on parle, le prophète Ésaïe est un prophète, donc il reçoit des messages que lui-même forcément ne décode pas. Je précise ce que je dis. Tous les maîtres d'Israël expliquent, en particulier le Talmud et combien d'autres, que les prophètes recevaient des prophéties qui n'étaient pas capables forcément d'entièrement déchiffrer. Ça veut dire qu'ils recevaient en bloc, puisque c'est une prophétie, des informations pour des choses qui se passeront dans des millénaires et qu'eux étaient capables de déchiffrer une partie, pas forcément tout. Regardez la prophétie qu'il dit. Dans l'histoire du Hamas qui est un kidnappeur, le fameux Ishmaël dont parle Balatourim, à Katan Yele Elef, tout ça arrivera le jour où un petit sera échangé contre mille. À Katan yé les élèves. Je répète, à Katan yé les élèves. Un contre mille. Katan yé les élèves. Le texte est d'une manière extrêmement, on pourrait dire, globale. La traduction englobe énormément de possibilités. Katan yé les élèves, mille pour un. Mais un, Katan, un petit. Un jeune. Ve'atsaïr, pour bien nous faire comprendre qu'on parle bien d'un jeune, ce jeune adolescent, les goy atsum, d'après les commentaires, fera de nous un peuple atsum. Ça veut dire que le plus petit d'entre nous fera de nous un goy atsum. Ça veut dire que, vous savez qu'on était tous en... De toute façon, je ne veux pas rentrer dans la marloquette, chas v'shalom, parce que ce n'est pas de notre niveau, je pense. Nous ne sommes pas des hommes du terrain pour savoir tout ce qui se cache derrière, et, etc. Donc ne parlons pas de choses que l'on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire apprécier et trancher, je pense ou je ne pense pas. De la même manière qu'aucun d'entre nous ne serait en droit de donner un avis médical sur une transplantation cardiaque de très haut niveau... Aucun d'entre nous n'est capable de porter un jugement définitif sur la transaction qui a eu lieu, parce que nous ne sommes ni des militaires, ni des officiers, nous ne sommes ni au Shabak, ni au Mossad, et nous ne savons absolument pas tous les enjeux qui se cachent derrière. Donc un minimum d'humilité intellectuelle, avant d'exprimer un avis positif ou contre. Maintenant, malgré tout, on peut rester plus ou moins dans le global, mais je pense que toute la nation était plus ou moins dans... Le doute, c'est bien, c'est pas bien, etc. Qui c'est qui n'a pas entendu cette interview d'un des cinq du Hamas qui a participé à... qui se trouve d'ailleurs en Syrie, il est interdit de séjour ici. Non, pas Machal, l'un de ses bras droits. Je n'ai plus le nom. On lui a téléphoné d'ici, quelqu'un de Harout Shtaim, et il a parlé à la radio. Ça a été aussi diffusé à la télévision, mais sans l'image, parce qu'on ne le voit pas. Et qu'est-ce qu'il a dit en vérifier, retrouver l'interview? C'est absolument incroyable. Qu'est-ce qu'il a dit? Et je ne sais pas s'il est toujours vivant après avoir dit une chose pareille, mais ça aussi, ça fait partie des miracles incroyables de cet échange. Il a dit une chose que nous devons... Il fait partie des cinq qui se sont occupés de la transaction. Il a dit une chose que nous devons avouer, nous, vos ennemis, il dit. Il parle en hébreu couramment parce qu'il est né à Ramallah. Un hébreu, comment il s'appelle? Vous l'avez entendu? Il est né à Ramallah. Et donc, il parle en hébreu courant, pratiquement sans accent, c'est un pélé d'ailleurs. Et il dit une chose que nous devons avouer, nous, Hamas, vos ennemis, c'est que cet échange, c'est votre force. C'est qu'en vérité, vous avez montré, et même à vos ennemis, que vous, il a utilisé le mot, que vous étiez un Am Atsum. Là, c'est marqué Goy Atsum, un Am Atsum. Comment vous êtes capable pour un juif, pour un soldat, pour un citoyen, de donner autant? Qu'est-ce que vaut chacun d'entre vous à vos yeux? Et il a dit, ça c'est votre force, c'est votre puissance, c'est votre otzma. Et il a rajouté, on aurait préféré que ce soit le contraire. Parce que le contraire aurait prouvé que vous n'avez pas justement la force qui fait de vous une nation spéciale. C'est un pélé cette interview. C'est absolument incroyable comment un bras droit de Michal peut dire une chose pareille, surtout qu'il fait partie des cinq qui ont négocié avec Cohen, etc., avec Yoram Cohen. C'est un pélé plaïm. Je pense que ce qui a eu de leur arriver, c'est que finalement, ils se sont rendus compte que c'est tellement phénoménal que même eux, ça leur est sorti de la bouche, comme l'âne de Bilan qui s'est mis à parler. Je veux dire, c'est plus fort qu'eux, c'est impossible. Ils n'arrivent plus à le retenir, alors que c'est incroyable qu'un type du Hamas dise une chose pareille. En tout cas, Vatsaïr, ce jeune-là, les Goyatsum, fera de vous un peuple puissant. Donc on est vraiment dans un contexte que l'on comprend. Seulement, le Balatourim va beaucoup plus loin que ça. Parce que quand le Balatourim décide de nous envoyer des messages, il ne nous lâche pas. Il explique que le Tsaïr fait peut-être allusion à ce que moi j'ai dit. Mais le Tsaïr fait allusion à un autre Tsaïr très célèbre dans la Torah. Qui est appelé le Tsaïr dans la Torah? Benyamin. Et il nous dit, va Tsaïr le Goy Atsum, ce Tsaïr qui fera de vous un peuple puissant, l'Omar, tu dois comprendre, Benyamin. Il s'agit de Benyamin qui est appelé dans la Torah, comme il est connu, Atsaïr Ketseiruto. Lorsque Yosef a placé ses frères devant lui, il est dit, il a mis le Tsaïr à l'endroit du Tsaïr. Donc le seul qui est appelé le Tsaïr dans toute la Torah, c'est Benyamin. Et dans le verset qui parle de l'échange entre un contre mille, le Balatourim nous dit qu'il y a une allusion au fameux Tsaïr biblique qui s'appelle Benyamin. Toute ressemblance, bien sûr, avec des personnages. N'oubliez pas que ce n'est qu'un cours de religion et certainement pas un cours d'histoire actuelle. Et donc, on est vraiment dans des messages inimaginables qui nous montrent que si on avait des doutes sur ce qu'on est en train de vivre, s'il nous en restait encore un petit peu, si on avait encore le moindre doute sur le fait qu'on avance véritablement à une rapidité, on n'arrive même plus à avoir le train, c'est plus un TGV, c'est plus, c'est un vrai TGV, c'est Torah grande vitesse, c'est véritablement, c'est vraiment des dévoilements inimaginables devant nos yeux, on n'arrive même plus à aller si vite que les dévoilements eux-mêmes. Mais c'est pas fini. La Torah, je vais revenir maintenant à Zacharie. Zacharie nous donne une indication absolument incroyable. Vous savez que tous les maîtres d'Israël, en particulier les maîtres des secrets de la Torah, ont dit que dans ces fameux versets qui parlent du moment où la lune et le soleil disparaîtront, il y a une allusion claire à l'époque où ça va se produire. Le problème, c'est que les maîtres d'Israël n'ont pas voulu révéler quelle était l'allusion. Et cette allusion, oui, s'est dévoilée. Et vous allez comprendre peut-être pourquoi ils ne voulaient pas le faire avant. Parce que l'allusion concerne une époque qui ne pouvait être dévoilée qu'aujourd'hui. Zacharie nous prévient que cette disparition des astres, donc des civilisations liées à ces deux astres, est liée à ce que lui appelle... Regardez, je reprends le verset 7 dans Zacharie 14. Ve'aya yom echad u yivada l'Hashem. Le jour où ça se produira, il n'y a que Dieu qui le sait. Je traduis bien sûr au premier niveau. Lo yom velo laila, ce jour où disparaîtront le jour, l'Occident, et la nuit, l'Islam, en tant que religion et civilisation, bien sûr. Et quand ça va se produire, ve'aya le et erev. Quand ça va se produire, les et erev, au moment du soir, au moment où le monde sera surtout sous l'influence de l'astre ismaélique, puisque même l'Occident se dotera de dirigeants qui ont un lien avec, avec l'islam et Ishmaël, donc c'est-à-dire que l'influence d'Ishmaël arrive même dans, jusqu'au niveau de la superpuissance occidentale aujourd'hui. Vaïl et Erev Yehor, au moment donc de cette obscurité, à ce moment-là, il y aura la lumière. Le moment où les choses vont commencer, je n'aime pas dire quand ça va se passer dans le sens, il faut l'attendre pour maintenant, parce que c'est toujours beaucoup, beaucoup plus subtil l'histoire que l'on voudrait que ça le soit, mais des allusions au niveau de périodes fondamentales et décisives, ça on a oui le droit de le dévoiler. La date est donnée, les et erev. Dans le mot les et erev est codée la date du début de la disparition de la lune et du soleil. Les et erev, tav shin ayin bet. Tav shin ayin bet. Notre année. Nous sommes l'année tav shin ayin bet. Les et erev. Tav Shin Ayin Bet. Comment? Le'et Lamed Ayin Tav. Lamed et Ayin, ça fait quelle lettre? Kouf. 100. 70 et 30, ça fait 100. On a donc dans le premier mot un 100 et un 40. Mettez ces deux lettres de côté. Mettez le 100 d'un côté, le Kouf et le Tav. Après, vous avez Erev. Aïn, Resh, Bet. Vous enlevez le Resh de Aïn, Bet. Il vous reste Aïn, Bet, notre année. Et vous prenez le Resh, vous le mettez avec le Kouf et vous avez le Shin. 200 et 100, ça fait 300, Shin. Et il vous reste Tav, Shin, Aïn, Bet. C'est notre année. Vous avez compris? Ce secret, je répète, comment? J'ai dit le 40. Taf Shin Ayin Bet. D'accord. Resh, c'est 200. Ça passe pas si facilement parce que c'est tellement fort que il y a des qui trouvent. Je reprends. Prenons le mot Erev. Le mot soir s'écrit comment? Dommage qu'on n'a pas un tableau. Ayin Resh Bet. Ayin Bet, c'est 72. On est dans l'année 72, oui ou non? On est Ayin Bet? Oui. Donc on a déjà deux chiffres de notre année, 72. J'ai enlevé le Resh. Le Resh, je vais le mettre avec le Lamed E, Lamed Aïn de l'E'et. Lamed Aïn, ça fait combien? 100. Et Resh, ça fait combien? 200. 100 et 200, ça fait combien? 300. 300, c'est quelle lettre? Shin. Et quelle lettre il reste de l'E'et? Un Tav. Tav, Shin, Aïn, Bet. Explicitement. Ça fait des millénaires que nos maîtres nous disent que dans ce verset se cache la date de la délivrance. C'est vrai que les Mayas en parlent aussi. Peu importe. Peu importe. Ce moment où ils en parlent comme des Mayas, ça veut dire ils voient la destruction, le mal, etc. Et le bon film qu'on a pu faire grâce à ça. Et donc, ça sert toujours, de toute façon, ceux qui font du cinéma. Mais c'est évident qu'il y a des brides de vérité, des morceaux qui tombent dans la clipa. Selon l'expression connue des maîtres de la Kabbalah, lorsque vous épluchez un fruit, il y a toujours des morceaux de fruits qui restent collés à l'écorce. C'est évident que toutes les civilisations écorces ont des morceaux de fruits. Donc comment les Mayas sont arrivés à savoir quand Tafshin Ayin Bet, qui est pour le monde 2012 et pour nous Tafshin Ayin Bet, le monde connaîtrait des événements particuliers parce qu'ils sont une écorce qui nous a piqué une partie du fruit. Mais peu importe. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce que le prophète Zacharie dit. Que l'année Tafshin Ayin Bet, que le prophète, d'une manière codée, appelle les et erev pour nous donner toutes les lettres. Dans l'expression les et erev, il nous donne toutes les lettres de Tafshin Ayin Bet. Ce que le prophète veut nous faire comprendre, c'est que cette année va être une année définitive. Et le prophète Zacharie vient à la rescousse du prophète. Le prophète Esaïe vient à la rescousse du prophète Zacharie pour donner d'autres signes qui nous permettront, on pourrait dire, de voir dans l'histoire quel est ce moment, cette période où ces deux astres commencent à disparaître pour laisser leur place à Hachem Havaï, Hachem Echad, au moment où le Hamas, le grand kidnappeur, sera prêt à accepter un contre mille, c'est à ce moment-là que commencera à être signée la fin de la lune et du soleil. Parce que comme on l'avait déjà dit il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que la plus grande erreur historique commise, et qui sera à mon avis la seule, parce qu'ils ne se relèveront jamais de cette erreur-là, c'est d'avoir accepté cet échange. Et surtout d'en avoir parlé comme d'une manière positive pour nous et négative pour eux après. Même si on peut discuter sur le bien fondé, peu importe, ce sont des discussions de salon, de toute façon, l'histoire est faite. Donc toute discussion ne ramènera pas l'histoire en arrière. L'histoire est faite, l'échange a été fait. En tous les cas, on a donc des signes qui nous montrent que effectivement cette année-là va être une année encore plus décisive que l'année passée et l'année d'avant, puisque si je ne me trompe pas, ça fait déjà quelques années qu'on explique qu'à chaque fois il y a des phénomènes inimaginables qui vont se produire dans le monde. Je pense que tous ceux qui ont été attentifs dans tout ce qui s'est passé l'année dernière ou l'année d'avant ou l'année encore d'avant s'aperçoit que c'est inimaginable, c'est époustouflant selon le mot consacré pour ce qui est en train de se passer. Comment on pourrait dire l'étau de la vérité se resserre, se précise pour converger toujours vers cette destination unique qui est la délivrance d'Israël. C'est-à-dire que même s'ils ne voulaient pas le faire exprès, on se demande s'ils ne font pas exprès d'avoir tous des comportements qui sont à ce point, dans les moindres détails, correspondant à toutes les allusions qu'ont données les maîtres et les prophètes d'Israël en ce qui concerne les signes de reconnaissance de la délivrance finale. Oui, il y avait une question ?
Non, je voulais savoir, remarquer, quand on fait la décomposition par rapport à l'année, on met pour composer le Shin, ce sont les lettres, Lamed, Resh, Ain.
Oui.
C'est Harel. Celui qui n'est pas circoncis. Vous avez fait allusion à ça tout à l'heure.
Bon, alors si déjà tu vas le dire, alors si tu fais la décomposition comme ça, tu as raison. Alors on a Harel l'incirconcis, et qu'est-ce qui reste? Aïn Resh Tav.
Voilà.
Arav. D'accord.
Aïn Resh Bet.
Il reste Arav aussi. Donc une allusion à l'islam, au circoncis, au non-circoncis. En vérité, on pourrait être beaucoup plus précis que ça, parce que nos maîtres nous promettent que le mois aussi, où il y aura quelque chose de très très fort qui va se passer, est en allusion ici. Et je vais simplement le dire d'une manière globale, parce qu'apparemment la permission de le dire de manière plus claire n'a pas été donnée. C'est le mot Ve'aya. Ve'aya est le nom divin, mais écrit différemment du nom divin. Puisque les Et Eref font allusion à l'année que nous venons de commencer, Tafshin Ayin Bet. Et avant, on a le mot Ve'aya le'et erev. Donc ce verset fait allusion à quand ça va se passer. Quand ça va se passer, Ve'aya le'et erev. Ça se passera au moment du soir. On a déjà décodé que le'et erev fait allusion à l'année Tafshin Ayin Bet. Et donc, puisqu'on a une allusion à l'année, il nous reste qu'à avoir une allusion au mois et aussi au jour. Mais l'allusion au mois est dans le Ve'aya. Là, je ne peux pas expliquer plus, mais simplement de manière très globale. Vous savez que les 12 mois de l'année ont chacun un Shem Havayé qui leur correspond, c'est-à-dire une manière d'écrire le Shem Havayé, le Shem de 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke. Selon comment tu écris, tu places les lettres, ça fait allusion à un autre mois, c'est-à-dire que par exemple, le mois de Nissan correspond au nom Havayé écrit normalement, Yud, Ke, Vav, Ke. Mais si, par exemple, tu mets le Vav en première lettre, ou tu mets un E en première lettre, ou tu mets un E Yud en première lettre, tu joues avec les mathématiciens là. Combien de combinaisons on peut faire avec 4 lettres? Combien de combinaisons on peut faire?
16.
Comment?
12, 24, 16.
4 fois 3, ça fait 16.
Oui, mais il y a deux fois la même lettre, donc c'est
ça limite. Comment?
24.
24 combinaisons.
Okay. Sans l'ordre.
Sans
l'ordre.
C'est-à-dire 24 combinaisons différentes. 24 combinaisons différentes avec 4 lettres.
Non, c'est pas... Parce qu'il y a deux fois la même lettre, donc ça unit.
Non, parce que c'est deux fois... Non, tu as raison. Parce que les deux « et », ça s'appelle une combinaison. « Et » « et », c'est la même combinaison.
Mais Rav, c'est pas la même lettre, c'est le premier et le deuxième.
Il y a 12 combinaisons possibles avec 4 lettres. qui correspondent aux 12 mois de l'année, parce qu'il y a des répétitions, comme par exemple « hé, que tu mettes le premier ou le deuxième « hé », c'est toujours « hé », ça s'appelle une seule combinaison. Tu arrives, peu importe, mais les Mekoubalim, les Mekoubalim ont vu au niveau des lettres, telles que les lettres, c'est vrai que selon le « hé », c'est pas la même combinaison spirituelle, tu as parfaitement raison, mais au niveau de l'écriture des lettres, Yud, Ke, Vav, Ke, ou He, Yud, Vav, Ke, ça peu importe. Il y a 12 combinaisons possibles qui correspondent aux 12 mois de l'année. Ce qui serait intéressant, c'est de retrouver à quelle combinaison correspond l'écriture ici de Vehaya, Vav, He, Yud, He. Simplement, et donc on aura le mois. Mais par contre, une chose qui est très très intéressante, c'est que là, ça rejoint de nombreux cours qu'on a donnés. Dans la combinaison Vav et Yud et, qui est le mot Vehaya, on s'aperçoit qu'il y a un renversement de la signification ou de la valeur spirituelle du nom divin, puisque le nom divin écrit dans l'ordre, c'est Yud et, qui fait allusion au monde d'en haut, Vav et, qui fait allusion au monde d'en bas, et là le mot Vehaya est écrit de telle manière à ce que le monde d'en bas se retrouve avant le monde d'en haut, le Vav et avant le Yud et. Ce fameux Vena'afor, ou cette fameuse, on peut dire, transformation du bas vers le haut, que justement, dans la dimension matérielle où le divin se cache complètement, c'est là qu'il y aura le plus grand dévoilement, plus grand encore que dans ce que l'on appelle aujourd'hui la dimension spirituelle. Et Zacharie fait allusion justement à cela lorsqu'il dit « Va'aya le et erev », c'est au moment de l'obscurité, « Yéor » que jaillira la lumière. Et on le retrouve dans le fameux nom divin inversé, où le Vav et se trouve avant le Yud et, ce que dans la Chassidut on appelle que Berleatid Lavo, Aneshamatit Parnes Me'agouf, selon cette métaphore chassidique époustouflante, que dans le monde à venir, l'âme recevra sa lumière du corps. Ça veut dire que se dévoilera dans la dimension physique et matérielle du monde une spiritualité, une énergie spirituelle plus forte encore que celle que possède l'âme aujourd'hui. Donc il y aura une sorte d'inversion totale. Peut-être que le Veya fait allusion au mois de Hadar, dans ce cas-là, qui est le mois de Vena'afor'u.
Ça se retourne avec aussi l'histoire d'Amalek, parce que si, comme on sait qu'Amalek il voulait couper la première partie, c'est-à-dire le Yud-Hei, en tolérant le Vav-Hei, mais pas le Ya. Là, on a dans cette écriture, on a justement, il croit trouver le Vav, mais il tombe sur le Yud.
Justement, et plus encore, lui qui voulait faire disparaître le Vav et, d'abord on lui remet le Vav et, mais non seulement on le lui remet, mais en plus en début de nom, puisque c'est Vehaya, qui est un nom divin aussi, avec le Vav et en début. Et donc c'est justement ça, là, c'est ça la victoire contre Amalek, puisque Amalek c'est le grand coupeur, c'est celui qui justement refuse l'union entre les deux. En tous les cas, on va pour aujourd'hui arrêter ce cours, parce que même s'il est encore relativement tôt, vous imaginez le parcours et la fatigue qu'il faut pour produire un cours pareil. En tous les cas, donc on doit se ménager un petit peu aussi. À partir donc de demain, Be'ezrat Hashem, on va rentrer dans le Mahamar. J'ai pas vraiment encore fini, mais je tiens à préciser. Pourquoi j'ai procédé de cette manière-là pour rentrer dans le Mahamar? Le Mahamar est encore une fois un enseignement de chassidoute pure. Bien que c'est un enseignement de chassidoute pure, c'est absolument évident que notre devoir, c'est de le faire descendre dans notre réalité la plus concrète, puisque sinon ça reste des idées tout à fait théoriques et abstraites et ça n'a aucun intérêt. Comment le Mahamar, on pourrait dire, va s'inscrire par rapport à tout ce qu'on a expliqué? Ça fait maintenant donc sur 2 semaines, on vient d'expliquer que tout ce passage de ces pieds qui se posent sur le Har HaZetim fait donc allusion, entre autres et surtout à notre époque, au conflit qui oppose Israël à Esav et Ishmaël, et finalement à la disparition des forces et du cycle naturel qui est tantôt le jour Esav qui règne, tantôt la nuit Ishmaël qui règne, avec une allusion claire comme quoi l'histoire de l'exil se terminera par le règne d'Ishmaël et non le règne de Esav, puisque Va'il et Erev, donc Esav aura déjà plus ou moins disparu et ne restera véritablement que Ishmaël, chose que l'on voit chaque jour davantage se préciser. Et donc tout ça, il va falloir le comprendre maintenant à un niveau beaucoup, beaucoup plus profond. Et c'est là que va rentrer le Mahamar de Chassidut. Et si vous voulez, ce que je veux dire maintenant est une introduction au cours de demain. Qu'est-ce que va faire le rabbi maintenant dans son Mahamar de Chassidut? Il va faire, peut-être, il va utiliser l'approche fondamentalement juive par excellence. C'est-à-dire d'expliquer comment tous ces mécanismes historiques sont d'abord des problèmes vécus à l'intérieur même du peuple juif. C'est-à-dire que la dimension de la lune et du soleil, d'Ishmaël, de Esav, la dimension de la guerre de Gog et Magog, même la dimension du mont des Oliviers et sa fissure, tout ça correspond à des notions qui se trouvent à l'intérieur du peuple juif. Et finalement, pour que ça puisse se produire dans l'histoire, il faut d'abord que ça se produise dans l'homme, ou plutôt dans l'âme. Pour que ça se produise dans l'homme, il faut que ça se produise dans l'âme. Et donc tout le but des deux ou trois cours qui vont suivre, ça ne va pas durer des semaines non plus, puisque de toute façon on a déjà dit énormément de choses, va être justement de mettre en évidence, pour mériter cette délivrance finalement, parce que si on s'arrêtait au cours d'aujourd'hui, on a décrit le comment, mais on n'a pas décrit le pourquoi, on a décrit ce qui va se passer. Maintenant va venir la chassidoute pour expliquer justement pourquoi ça va se passer, c'est-à-dire ça implique quoi comme travail au niveau du Ham Israël. Je fais allusion d'ailleurs à, en expliquant ce que je dis à ce qu'on appelle la préface du Zohar, Agdamata Zohar, où là-bas, vous savez que le Zohar lui-même est précédé d'une longue préface de plusieurs dizaines, voire presque 100 ou 200 pages, où dans la Agdama, Rashbi est en train d'une certaine manière de nous préparer à comprendre ce qu'est son œuvre, ce qu'est le Zohar. Et il y a un moment dans le début du Zohar, plutôt dans la Agdama du Zohar, il parle, toute ressemblance avec, c'est encore une fois l'histoire de l'écorce qui nous a volé du fruit, le mi et le ma, le yin et le yang, le mi et le ma, où il explique que toute la création fonctionne sur le mi et le ma, c'est-à-dire la connaissance du comment et la connaissance du pourquoi. Le comment, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui va se dérouler, c'est le ma. Et après, c'est le mi, ça veut dire pourquoi. Ça veut dire l'interrogation qui nous ramène à la source. Et si vous voulez, c'est entre autres l'apport phénoménal de la chassidoute dans le monde, c'est la raison pour laquelle la chassidoute est d'une certaine manière le dernier grand dévoilement avant la délivrance finale, parce que la Torah, ou plutôt les maîtres d'Israël, pendant toutes les générations jusqu'à cette période pré-messianique, se sont surtout occupés et préoccupés du comment, c'est-à-dire de nous apprendre, de nous enseigner les principes fondamentaux de l'existence et de l'histoire, de manière à ce que le juif puisse finalement accorder sa vie au niveau de ces principes fondamentaux, pour ne pas être en désaccord avec les lois fondamentales de l'existence. Mais va venir la chassidoute, elle va nous dévoiler le pourquoi, ça veut dire, et pourquoi les choses fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que va venir ce Mahamar nous expliquer qu'est-ce que représente à l'intérieur du juif et du peuple juif l'ouverture du mont des Oliviers. Et donc, après que l'on ait compris au niveau du Mahamar ce que signifient toutes ces notions à l'intérieur de notre travail en tant que juif, alors il faudra faire après, ça sera, je pense, la fin de ces cours, le lien entre l'histoire telle que c'est rapportée dans les prophètes et telle qu'on l'a déchiffrée et le Mahamar pour arriver justement à faire le lien et comprendre justement quel est le travail particulier de notre génération, sur quoi il faut mettre le doigt, sur quoi il faut mettre véritablement tous nos efforts. Et Bezrat Hashem, on continue demain. Amen.